journal est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Un nouveau pic de tension dans la péninsule coréenne. Pyongyang a tiré un missile ce matin depuis un sous-marin. Il s'est abîmé en mer du Japon. Une provocation pour Tokyo, mais aussi pour Séoul et Washington. Correspondance à suivre de Frédéric Ojardias. En France, le tourisme est en perte de vitesse sur les 6 premiers mois de l'année. La faute aux attentats, notamment. Détail des plans d'action du gouvernement avec Marie Viennot. Focus également dans ce journal sur la 8e université du NPA cette semaine, près de Perpignan, où comment faire entendre les voix anticapitalistes du printemps social jusqu'à la présidentielle de 2017. Le reportage de Laurence Perron. Mais l'on commence par ce séisme de magnitude 6,2 en Italie, séisme qui a fait au moins 3 morts dans la région des Marches, au centre du pays. Séisme ressenti jusqu'à Rome, situé à environ 150 km au sud-ouest de l'épicentre, en Ombrie. L'armée turque et les forces de la coalition internationale anti-djihadiste ont lancé ce matin une opération pour chasser le groupe État islamique de la ville syrienne de Jarablus à la frontière de la Turquie. Une manière également de prendre de vitesse les combattants kurdes qui avançaient justement vers cette position. Un acte irresponsable qui ne peut être toléré, c'est en ces termes que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé le tir ce matin d'un missile balistique nord-coréen lancé, selon l'armée américaine, depuis un sous-marin sur la côte orientale nord-coréenne. Le missile aurait parcouru 500 km avant de retomber en mer du Japon, plus précisément dans la zone d'identification de la défense aérienne japonaise, signe d'une avancée technique de Pyongyang, représailles également aux manœuvres militaires annuelles menée en ce moment par la Corée du Sud et les États-Unis. La correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias pour France Culture.
Le programme balistique nord-coréen progresse à un rythme inquiétant. En juillet, le précédent missile lancé par le régime depuis un sous-marin avait parcouru 30 km. Ce matin, le projectile a volé 500 km en direction du Japon. Les missiles tirés depuis des sous-marins sont plus dangereux car beaucoup plus difficiles à détecter. La présidence sud-coréenne a convoqué en urgence une réunion de son conseil de sécurité. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé un acte impardonnable qui pose une grave menace pour la sécurité du Japon. Le tir est interprété à Séoul comme une réaction aux exercices militaires massifs organisés par la Corée du Sud et les États-Unis depuis lundi. 75 000 soldats participent à ces manœuvres de 2 semaines qualifiées de préparatifs à une invasion par Pyongyang qui a brandi lundi la menace de représailles nucléaires. Dans le passé, les analystes considéraient que le régime utilisait ces tirs et ces provocations pour obtenir des concessions économiques et diplomatiques. Une analyse qui semble de moins en moins pertinente depuis que le dirigeant Kim Jong-un a pris le pouvoir. En dépit des sanctions qui s'accumulent, la Corée du Nord a pour clair objectif d'obtenir au plus vite une capacité de dissuasion nucléaire crédible.
Et le regain de tension dans la péninsule coréenne, il en sera question également aujourd'hui à Tokyo avec une réunion tripartite entre les ministres des Affaires étrangères, chinois, sud-coréens et japonais. La menace terroriste qui a en France poussé les touristes étrangers à bouder l'Hexagone. 7% de visiteurs en moins sur tout le territoire, c'est 1 million de touristes en moins pour Paris et l'Île-de-France. C'est ce qu'a annoncé hier le comité régional du tourisme, mais la menace terroriste n'est pas la seule cause de cette baisse. Et Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, débloque 500 000 euros supplémentaires pour relancer la destination France, avec 3 réunions, rien que ça, prévues à l'automne, Marie Viennot.
Les comités d'urgence sur le tourisme se suivent et vont se poursuivre. Il y en aura un en septembre, a annoncé hier Jean-Marc Ayrault. Le dernier s'était tenu le 13 juillet, la veille des attentats de Nice. Le ministre des Affaires étrangères y était alors optimiste, il souhaite maintenant faire le point sur une situation très contrastée d'un lieu touristique à un autre.
C'est vrai qu'il y avait un effet attentat pour Paris et l'Île-de-France, c'est indéniable. Il y a eu d'autres éléments qui ont joué, il y a eu les intempéries, il y a eu les conflits sociaux, il y a eu des annulations de vols d'Air France, etc. Tout ça s'est cumulé. Il y a eu un rebond d'activité avec l'euro dans les villes organisatrices, les villes d'accueil. Les festivals se sont bien passés. Donc il va falloir regarder ça objectivement, voir où sont les points faibles, voir ce qu'on doit corriger et comment, face à une situation de crise, on peut mieux anticiper la mise en œuvre de mesures.
Un fonds existe déjà. Il recevra 500 000 euros de plus, notamment pour aider la Côte d'Azur et l'Île-de-France. Avec la perte d'un million de touristes et 750 millions de chiffres d'affaires, le président du comité régional du tourisme d'Île-de-France évoque une catastrophe industrielle. Frédéric Valtou.
Il y a 75 000 entreprises en Île-de-France, 500 000 emplois qui dépendent de la filière touristique. Tout ce n'est pas des grands groupes, c'est parfois des entreprises très petites. Et comment on peut tenir dans le temps avec de telles diminutions de fréquentation et l'impact que ça peut avoir sur les chiffres d'affaires. Donc effectivement, la question de l'emploi, elle est posée et qu'il faudrait mieux s'en préoccuper maintenant par des mesures fiscales, par des mesures sur les charges sociales, par des mesures d'aide à l'investissement, etc., plutôt que d'attendre qu'il y ait effectivement une catastrophe en termes d'emploi.
Le tourisme est le premier employeur en Île-de-France. Or, les mauvais chiffres annoncés hier ne tiennent pas compte des annulations qui furent massives en juillet et en août.
Un reportage signé Marie Viennot pour France Culture.
Il est 7h05 sur France Culture, c'est le journal de Catherine Dutu. Vous nous parlez maintenant, Catherine, de financement du logement social en France.
Avec le Fonds national des aides à la pierre qui a été officiellement mis en place hier par la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, l'objectif, rendre plus transparent le financement du logement social et pour cela, instaurer une co-gestion entre l'État, les collectivités et les bailleurs sociaux. C'est un progrès pour Frédéric Paul, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat qui représente 730 bailleurs sociaux.
Nous sommes passés d'un système dans lequel c'était l'État tout seul qui assurait la programmation à un système dans lequel nous avons maintenant une collégialité des trois grands acteurs concernés par le logement social, c'est-à-dire les collectivités territoriales, l'État et les maîtres d'ouvrage sociaux. On a atteint sur ce premier point une étape de modernisation. Puis il y en a un deuxième, c'est que pour que le Fonds national soit crédible, il faut que ce Fonds national soit cofinancé également comme il est co-géré par l'État, à travers son budget propre, les organismes d'HLM, via les cotisations qu'ils apportent à la Caisse de garantie du logement social, et puis troisième part, les collectivités territoriales. Les organismes d'HLM sont obligés de mettre de plus en plus de fonds propres dans le montage des opérations de construction. C'est à cette condition qu'on arrive à tenir le prix de sortie du mètre carré de logement social. Au fur et à mesure que les coûts de construction ont augmenté et que l'État s'est progressivement désengagé sur les aides à la pierre, c'est une contribution qui augmente.
Frédéric Paul, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, était interrogé par Marion Chantreau. Direction Port-le-Cat, à présent, c'est près de Perpignan que le NPA a ouvert hier sa 8e université d'été et le lancement de campagne de Philippe Poutou pour 2017. Il avait recueilli 1,15% des voix lors de la dernière présidentielle, mais aujourd'hui, l'espoir du parti anticapitaliste, c'est de continuer à faire entendre sa voix après un printemps social qu'il estime porteur. Le reportage de Laurence Perron.
Le soleil plonge dans la mer, tandis qu'Olivier Besancenot prend le micro sur la scène du camp de vacances, reconverti en université d'été révolutionnaire.
On aura eu quelques victoires symboliques, des coming-out politiques plutôt cocasses, monsieur Macron. Grand scoop, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis dans un gouvernement de gauche, mais quelle importance. Alors on voudrait lui dire deux choses, qu'il n'y a que lui qui croit qu'il est dans un gouvernement de gauche. Et la deuxième, c'est que l'honnêteté nous oblige à leur dire qu'on va continuer le combat et qu'on lâchera pas.
Sous le regard bienveillant d'Alain Krivine, le fondateur de la LCR, ancêtre du NPA, le passage de témoin avec la génération d'après, celle de Nuit Debout. Tariq, l'un des animateurs du mouvement.
À toutes celles et tous ceux qui voudraient redevenir jeunes, j'ai envie de leur dire de ranger leur crème de jour, de nuit et les implants capillaires, parce qu'être jeune aujourd'hui, c'est hardcore.
C'est bien sur la promesse de l'insurrection qui vient, celle qui a frémi à l'occasion de la loi travail, que le NPA entend fonder sa campagne. Philippe Poutou cite l'anarchiste espagnol Durruti.
Pour un révolutionnaire, l'action permanente est le moteur de l'histoire. C'est pourquoi le simple fait d'entamer un combat, c'est déjà une victoire.
Et pour que les choses soient bien claires, on rappelle ici que 2017, c'est le centenaire de la révolution russe et qu'il sera dignement fêté.
Laurence Perron à Port-le-Cat pour France Culture. Le temps de ce mercredi, 14 départements placés en vigilance orange pour canicule, ceux de l'Île-de-France, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord et de l'Yonne. Cet après-midi, il fera entre 22 et 31 degrés près du littoral, 30 à 37 dans l'intérieur des terres, Benoît Bouscarel.
Merci beaucoup Catherine Dutu et à tout à l'heure, 7h30.